C'était relativement simple en fait. C'est qu'on avait beaucoup de gens autour de nous, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées, qui étaient des consommateurs du numérique et pas du tout des pratiquants. Ne serait-ce qu'en pratique et usage du numérique avant de parler de fabrication. Après, on s'est nous tournés vers la fabrication au fur et à mesure. Et donc, moi, j'avais travaillé en fait avant avec. Des gens qui étaient très bassement qualifiés, avec peu de diplômes et avec des personnes âgées. Donc on les avait accompagnés à utiliser du numérique, mais plus numérique, web, etc. Et donc j'avais arrêté et j'avais l'intention en fait de créer des ateliers pour aider des enfants à moins consommer en fait le numérique et plus fabriquer des jeux, par exemple, vidéos, interactif, électronique, et on a glissé très rapidement. Donc ici à la Maison Populaire, vous aviez initié aussi des ateliers de bidouille. Et pendant que moi j'étais en train de formaliser des ateliers de fabrication de jeux vidéo comme Scratch, électronique et robotique, mon gamin venait ici et après très vite on a proposé de faire des ateliers avec la Maison Populaire et on est venu pendant une semaine de vacances avec deux de mes formateurs faire de l'impression 3D et du scratch. Donc ça, c'était quand on était en train de monter nos ateliers. Et après, on a ouvert le champ à d'autres publics qui sont les adultes en période de chômage qu'on a formés. On a créé une formation qui s'appelait Référent numérique. Et aujourd'hui, on a des actions beaucoup plus larges puisque dans le 95, en fait, on a monté un Fab Lab où on accompagne des jeunes décrocheurs scolaires à avoir des pratiques numériques. Et c'est Vivien qui les accompagne principalement à utiliser des machines-outils telles que des imprimantes 3D, des découpeuses laser, de l'électronique, de l'Arduino, du code avec des Raspberry Pi. Et donc on travaille avec tout le territoire. On est un petit peu comme la démarche qui était expliquée tout à l'heure. On part, nous, des besoins des usagers. Et donc, on ne forme pas ces jeunes à des choses très précises. En fait, on audite le territoire pour savoir quels sont leurs besoins, que ce soit la collectivité, les habitants ou des entreprises. Et on fabrique, en fait, des commandes qu'on nous passe à dimension sociale avec les jeunes, les prototypes ou les outils dont ont besoin les gens du territoire. Et en même temps, nous, on en profite pour apprendre à ces jeunes à utiliser ces machines-outils, donc à acquérir des compétences. Donc forcément, on les forme pas à un métier, hein, mais on les forme à des compétences qui vont être indispensables demain. Et en même temps, ils sont en projet, ils fabriquent des choses, ils se projettent dans l'avenir, ils gagnent en confiance en eux. Donc nous, notre objectif, c'est d'utiliser le numérique comme un vecteur vers autre chose. Un accès à la culture, un accès à la confiance en soi, un accès à des savoirs de base. Et on fait plein d'autres projets, comme par exemple, aujourd'hui, on est en train de développer un accès en fait de support pédagogique dans des écoles en brousse en Afrique, où on a trouvé des partenaires. Et donc, il y a 7 pays africains qu'on va accompagner, parce qu'on leur donne des supports pédagogiques et des bornes en format Raspberry Pi pour que ces jeunes qui n'ont ni Internet ni le téléphone puissent apprendre les maths, le français, l'histoire géo à travers des tablettes et des bornes Internet qui permettent en fait de créer une sorte de mini Internet dans leur petit village puisqu'ils ont accès à rien. Voilà.
Donc vraiment, c'est rendre acteurs les gens de la création et du numérique aujourd'hui, pour oui, les valoriser, pour leur donner des compétences, pour pouvoir, c'est ça, oui, agir vraiment aujourd'hui dans.
En fait, je rejoins l'idée de départ, qui était de dire, en fait, on a beaucoup de gaps qui se créent entre les savoirs de ces technologies et ces technologies. Il faut les pratiquer pour les comprendre. Les comprendre profondément et agir dessus. Parce que sinon, en fait, nous, les habitants, les gens, nos enfants, on va perdre la maîtrise de ça et de la compréhension du monde. Et ça me semble primordial d'accompagner ces jeunes qui sont l'avenir et les gens qui nous entourent à plus pratiquer le numérique, que ce soit avec des simples ordinateurs ou tous ces outils qui sont des outils robotisés.
D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être passé sur le plateau. En tout cas, vous êtes encore avec nous pendant quelques instants. Et EcoDev, on ne dit pas EcoDev, c'est CoDev, CoDev, C-O-D-E-V. Voilà, ils sont venus en masse, comme diraient les Canadiens. L'équipe de CoDev avec nous, il ne manque plus que Vivien. Non, si, il a déjà eu la parole. Un autre papa qui doit aller chercher l'enfant aujourd'hui et qui est avec nous. En tout cas, on est très heureux de le recevoir. Pierre-Julien de la Fuente, avec qui on a développé plusieurs sujets et qui est à la base de cette émission aussi. Il se qualifie comme bricoleur digital humaniste, mais on le connaît plus en qualité de créateur du site internet qui s'appelle les utopies au pluriel -concrète.org. Nous n'avons pas de questions pour Pierre-Julien de la Fuente parce que nous ne comprenons rien. Il se débrouille très bien tout seul. Bonjour Pierre, merci d'être parmi nous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je vais parler effectivement un peu du projet Utopie Concrète avec deux petites anecdotes très actuelles. La première, c'est des migrants à Calais qui sont visés depuis plusieurs jours. Donc la première anecdote n'est pas très rigolote. Et la deuxième anecdote, elle est pas plus rigolote, c'est à Notre-Dame-des-Landes, des quarts et des quarts de flics qui balancent aussi de la fumée sur des tracteurs et des gens qui sont juste contre le projet d'un aéroport. Donc ces deux anecdotes, en fait, elles disent que le monde va mal, quoi. Qu'il y a encore partout autour de nous, que ce soit en France, mais partout sur la planète, un système qui est en train de mourir et qui veut pas mourir, quoi. Et il y a plein de choses, plein d'initiatives qui sont en train de se créer, dont on a parlé ici un petit peu, et qui sont en train d'émerger, et qui mettent du temps à émerger, et on se sent un peu perdu parmi toutes ces initiatives, parmi tous ces collectifs, ces projets. Du coup, Utopie Concrète, c'est un projet entre quelques amis qu'on a monté, dans l'idée de créer un espace pour... Allô. Ouais, l'idée c'était de rendre visible, de créer des représentations, un espace pour donner voix à toutes ces initiatives-là. Donc c'est prendre un peu de recul et dire, bon, dans ce monde qui émerge, il y a ça qui existe, il y a différents mouvements de pensée, politiques, philosophiques, il faut absolument qu'on crée des espaces où on puisse les lister, les rendre visibles, pour que quelqu'un qui arrive là puisse... voir où il est, voir comment fonctionne le monde et voir quelles sont les clés qu'il a à sa disposition pour qu'on claque pas tous dans 20 ans, quoi. Donc du coup, en pratique, c'est pour l'instant un site internet, mais le projet pourra prendre plusieurs formes différentes. Et sur ce site internet-là, on a essayé de... Donc il s'appelle le manifeste des utopies concrètes. Manifeste parce qu'on essaye de synthétiser, de dire voilà à quoi on tient, c'est important, on tient à ça. Si possible de manière assez synthétique. Utopie parce que évidemment tout de suite on parle de philosophie, de politique, de choses assez abstraites. Et concrète, comment on fait pour articuler ces choses un peu abstraites à travers des collectifs et des initiatives qui existent partout, quoi. Donc pour qu'on puisse se repérer parmi tout ça, on a agrégé à travers une carte énormément de points en France, mais aussi dans d'autres pays francophones, qui selon nous portent de l'autonomie, de l'autogestion, de l'horizontalité, de l'émancipation, de la réappropriation, des choses dont Mathieu a parlé de manière très simple et très belle au début de notre conversation. Et là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, de pas seulement se réapproprier les objets techniques qui nous entourent et qui sont de plus en plus complexes, mais que ça soit un prétexte pour se réapproprier des choses qui sont beaucoup plus larges, quoi. Comment on se réapproprie ce qu'on mange, là où on vit, avec qui on parle, la politique en général, parce qu'on voit bien qu'elle n'est plus du tout représentative. Donc c'est essayer d'un peu quadriller plein de domaines et de les articuler les uns avec les autres pour faire sens, quoi. Et on a besoin d'outils pour ça, quoi. Parce que les outils à la mode actuellement, c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter. Tu veux m'interrompre ?
Oui, personnellement, enfin, c'est une vieille vanne que j'ai envie de dire. Moi, personnellement, Google, ça ressemble à un site de vente de pizza. J'adore les pizzas, hein, mais voilà, à côté du Toupie concrète, Google, c'est vente c'est de pizza.
Ah non, mais c'est très pratique, Google, mais on oublie super vite que bah, c'est un bonhomme, c'est une entité en Californie qui s'occupe de l'information mondiale sur plein de plans, quoi. Donc il faut qu'on commence, il y a plein de projets, d'autres projets qui existent, à se réapproprier des outils techniques et surtout se réapproprier la politique, la consommation, l'habitat, plein de choses, quoi. Donc on se noie super vite là-dedans parce que comme là on l'a vu, on peut parler une heure, deux heures, trois jours de milliers et de milliers d'initiatives. Donc comment on fait pour prendre un peu de recul par rapport à ça et essayer d'articuler les différentes initiatives? Nous, ce qu'on propose sur le site, c'est aussi quelque chose qu'on a appelé réseau. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. J'aime bien cette citation. C'est-à-dire que l'idée, selon moi, les alternatives qui vont marcher, c'est celles qui sont dispersées et qui sont résilientes, quoi, qui sont capables de résister à de l'absorption par du greenwashing, parce que c'est quelque chose qui nous guette. C'est que les beaux discours de collaboratif, de faire soi-même, etc., sont aussi vite repris par des gens très talentueux de la communication qui travaillent chez Areva, chez Total, et qui vont nous dire que oui, cette voiture est verte et que tu peux la fabriquer toi-même, etc. Mais l'idée, c'est d'arriver à sortir un peu de ça et regarder un peu plus largement ces problématiques. Donc le réseau, c'est quoi? C'est l'idée, comment on fabrique cet espace-là? Le réseau, c'est une cartographie, une galaxie de sites Internet. Donc c'est très réducteur parce que c'est que les sites Internet. Mais essayer de voir déjà, pour commencer, comment les sites internet qui parlent ou qui représentent ces initiatives-là, ça peut être des ONG, ça peut être des projets, ça peut être des médias, ça peut être des revues, comment ils s'articulent les uns les autres, c'est-à-dire comment ils se citent, combien de fois ils se citent les uns les autres, pour voir en gros qui est ami avec qui a une position un peu distincte de qui d'autre, etc. Et pour faire sortir, alors ceux qui sont à la radio ne voient pas, mais on voit ici une sorte de patates chaudes avec plein de couleurs, pour voir émerger différentes positions politico-philosophiques qui questionnent toutes ces problématiques de réappropriation, d'émancipation. Et donc ça fonctionne un peu comme un annuaire, c'est-à-dire qu'on peut cliquer au hasard pour aller voir les Amis de la Terre, je ne sais pas si les gens connaissent ça parmi vous, Alternativa, c'est les plus connus, mais il y a plein de petits points partout. L'idée, c'est pas de réduire ou donner une solution unique, mais de fonctionner un peu comme un portail qui donne accès à plein d'initiatives diverses et variées. Et, alors c'est le philosophe peut-être qui va nous éclairer, mais, de voir comment elles s'articulent, quelles sont les lignes de tension, les lignes qui les séparent, pourquoi est-ce que finalement ce monde-là qui est en train de naître, pourquoi est-ce qu'il met tant de temps à naître, pourquoi est-ce que ça ne marche pas là, ça doit en 2-3 ans, on devrait renverser Sarko, on devrait renverser Hollande. Mais bon, non, ça marche pas, il y a des primaires de la gauche, certains disent non, nanana, enfin bon, on n'arrive pas à tourner la page, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de créer un espace de sens et d'applications pratiques qui permettent d'accélérer un peu, de rendre visibles ces nouveaux possibles qui sont en train d'émerger, quoi.
Et juste concrètement, comment vous arrivez à les recenser, toutes ces initiatives? Enfin, concrètement, vous cherchez, on vous contacte, et comment vous choisissez? Parce que finalement, c'est quand même des choix très personnels, selon quand même votre vision des choses. Comment vous arrivez à dire oui ou non pour certaines initiatives?
Alors au départ, le projet est parti à partir d'une analyse très qualitative, très personnelle de moi, que je considérais comme intéressant. Et ce qui marche bien dans ce site, c'est qu'il y a un aller-retour entre cette approche un peu qualitative, où c'est des gens qui éditorialisent les contenus, qui disent « Ah, mais moi, je connais cet asso, elle est pas mal, elle marche », et qui ajoutent des contenus petit à petit, parce que c'est une écriture et collective entre plusieurs auteurs, et une approche quantitative qui, en gros, ajoute semi-automatiquement des nouvelles initiatives par rapport au nombre de fois où elles ont été citées par les autres. Donc c'est de la validation par la masse, quoi. Donc ça, c'est super, parce que si me parle demain d'une super asso dans ton quartier qui répare des vélos, et ben on est capable avec ça de voir, ah mais en fait c'est une asso qui est très en lien avec telle autre asso qui fait ça, qui est citée dans tel média, et ça permet de saisir assez vite la température. Et si c'est Castorama qui lance son truc de réparation de vélo, on le verra tout de suite, quoi, parce qu'il y a une validation de masse qui permet de savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, quoi.
C'est-à-dire que n'importe quel internaute peut valider ou non un... C'est un peu flou, j'ai pas... Qui valide ? Qui sont les quantitatifs ?
Alors là, à l'écran, on voit par exemple Think Progress. Je pense que c'est un média américain, ça va être un think tank qui publie des trucs autour de l'extrême gauche. Moi, je sais pas ce que c'est en vérité. Et toi non plus, mais comment on fait ? Ben, on regarde les amis. Alors, Boycott World, Stop Gage de Schiste, Source Watch, JNEASO, Apropédia, Tor Project, Anarchopédia, Confusionniste.info. On peut saisir, selon les amis qui sont listés dans cette galaxie, avoir une vision une synthèse rapide de comment se positionne ce projet-là par rapport à tous les autres sur la galaxie. Ça, en fait, les voisins vont valider le projet, quoi. Parce que chaque voisin, chaque citation, en gros, dit quelque chose sur le lien que ce site-là a avec les autres, quoi.
Donc finalement, il y a quand même un robot derrière tout ça.
Alors, il y a des robots derrière tout, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on essaye de mettre de l'humain et puis il y a toujours des robots. Je pense qu'il faut... Oui, il y a des robots, et oui, il y a de l'humain, c'est-à-dire que l'enjeu là, c'est d'arriver à comprendre les machines qui produisent ça pour accompagner le robot. Céder des outils, on utilise tous des robots, on utilise tous Google tous les jours, mais c'est une boîte noire, quoi. Et là, l'idée, c'est d'utiliser cet outil-là, qui est un robot, mais
de quand même rester le patron.
Et de quand même, voilà, pouvoir lui dire « Ah non, là, tu t'es trompé », ou explorer manuellement des résultats qui sont très quantitatifs, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yano, quand vous découvrez le site Utopie Concrète aujourd'hui, ou vous l'aviez déjà vu ?
Eh bien, je suis assez triste de devoir avouer que je le découvre aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, dans l'association là, dont je fais partie, qui s'appelle l'Université d'écologie des arts de Montreuil, on a essayé de mettre en place une cartographie aussi des initiatives à Montreuil, qui est encore en cours, et qui est bien moins ambitieuse que la tienne. Non, ce que ça montre assez bien, c'est que la technique, quand on parle de technique, on pense aux objets techniques, aux produits de la technique. Mais la technique, c'est aussi du lien humain par définition, parce qu'une technique, elle n'est valide et elle n'est utilisée que si elle est diffusée dans un groupe humain qui l'utilise, qui la développe, qui la produit, qui donne des fonds pour la produire et la faire exister. Et donc, si on veut changer la nocivité des techniques qu'on emploie, si on veut changer les influences négatives des techniques qu'on emploie, il faut aussi travailler sur la matière sociale. Alors, soit en révélant, par exemple, effectivement, en montrant... les liens positifs qui peuvent exister pour aboutir à des nouvelles relations techniques, sociales, qui améliorent les conditions de production et de consommation des objets. Mais on peut aussi commencer à réfléchir à des termes plus complexes, c'est-à-dire arrêter de penser que la technique, ce n'est que de la production d'objets, et penser aussi en termes de pratique, et notamment aussi réfléchir à comment ça interagit avec toutes les sphères de notre vivre ensemble, et notamment le droit. On a parlé tout à l'heure de l'open source, du libre et du pas libre.
C'est entièrement Utopie Concrète est entièrement réalisé avec des outils open source, et c'est open source, c'est-à-dire qu'on peut tous le modifier, enfin le modifier à bon escient, c'est-à-dire on peut publier, on peut, donc c'est intéressant. Mais je vous ai coupé.
C'est une question un peu ennuyeuse de droit, et notamment de la question du droit qu'on retrouve, qui a été inventé au 19e siècle, qui est en France, en Europe, le droit d'auteur, aux États-Unis le brevet, et qui permet de dire voilà, j'ai placé une idée dans cet objet technique, il m'appartient, tous ceux qui ont participé n'ont plus le droit d'en profiter, et c'est moi maintenant qui vais toucher les royalties et qui va avoir
Mais alors justement, moi, la première question, quand j'ai vu le travail de Pierre, je me suis dit, mais comment est-ce que tu vas vivre avec ça? Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? C'est un travail considérable, en fait, puisque finalement, au-delà du fait de rencontrer des gens, beaucoup de gens, et de faire participer des lieux alternatifs qui sont peut-être réticents aussi à l'idée d'Internet, qui peuvent vous dire, oh là là, il y a une idée derrière, vous voulez faire des ronds, vous allez faire pareil. Comment, justement, la première question, c'est mais comment tu vas vivre de ça? En fait, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le propos. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas, vous me dites si je me trompe, tu me dis, on ne calcule pas du tout le temps qu'on passe là-dessus. Enfin, c'est...
Ouais, on s'en fout, c'est un détail, quoi. Non, je pense que là, on est confronté à une situation quand même très très grave. qui est difficile à résumer en une ou deux phrases, politique, philosophique, climatique, et du coup, il faut y aller, quoi. Donc, toute l'énergie qu'on a, il faut qu'on la mette dans notre quotidien, voir comment on change notre manière de vivre, notre manière d'interagir avec les autres, pour se sortir de l'aliénation toujours grandissante des multinationales. Du coup, ouais, comment on vit, oui, bon, on arrive à manger, il n'y a pas de souci, quoi.
Vous êtes invité quand vous voulez, en tout cas, à notre table à la Maison Populaire, Pierre-Julien de la Fouetteau. Merci. Ça nous donne une... En plus, enfin, c'était un autre aspect, un autre angle. C'est vrai que ça a un peu plombé au départ. Voilà la situation, voilà le truc. Mais il faut pas l'oublier aussi, effectivement. On a vu ce qui s'est passé à la COP21. On en a parlé vraiment, vraiment beaucoup. Et ça nous permet, justement, après ce petit jingle fait à la main, de recevoir Anastasia. Et ça, c'est pas tout le monde.
Et oui, parce que Vincent aussi vient de nous rejoindre, donc ça tombe bien, on va pouvoir parler du Jardin d'Alice. Donc Anastasia, vous êtes coprésidente de l'association Le Jardin d'Alice, et Vincent Roudot, vous êtes cofondateur du Hackerspace Black Box. Et donc avec vous, on va pouvoir aborder le sujet des hackers et des hackerspace et du logiciel libre. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association et ses activités du Jardin d'Alice?
Oui, alors moi je vais surtout parler du Jardin d'Alice, qui héberge un hackerspace que développera probablement plus longuement Vincent. Le Jardin d'Alice, c'est un peu, j'ai un peu écouté tout le monde et du coup, bon, j'interviens à la fin. Alors, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête en écoutant tous les projets. J'ai l'impression, en fait, que nous, on est un petit peu tout. On est un espèce de lieu d'expérimentation, à la fois un lieu de vie. C'est un peu entre un habitat participatif, un collectif d'artistes, un centre social, une cantine populaire, voilà, des ateliers. On est pluridisciplinaire, donc il y a trois grands pôles d'activité qui sont plutôt les arts, on va dire, traditionnels, spectacle vivant et arts plastiques. Donc là, en passant par théâtre, danse, peinture, sculpture, voilà, musique, etc. Du coup, un aspect plutôt numérique avec le Hackerspace et le Textile Lab, donc Black Box et Data Paulette. Enfin, maintenant, le Hackerspace a un nouveau nom, il s'appelle le Jack, depuis hier soir, et il ouvre ce soir d'ailleurs pour la première fois, parce que du coup, alors je reviens sur le troisième pôle, et puis après je vais expliquer un peu l'histoire du Jardin d'Alice. Et donc le troisième pôle qui a un aspect plus politique, écologique, et du coup ça me fait le pont un peu avec l'histoire du jardin qui est, en fait à la base nous on a une convention d'occupation précaire, on est issu du milieu squat, aujourd'hui on n'est plus un squat hein, puisqu'on ça fait plusieurs années qu'on est conventionné par, alors avant la ville de Paris. Pourquoi le Jardin d'Alice? Parce que du coup, et pourquoi les activités écologiques? C'est-à-dire qu'en fait c'est... 4-5 plasticiens qui ont trouvé une maison vide dans le 18e, et cette maison avait un grand jardin. Assez naturellement, en fait, les plasticiens se sont du coup... les activités artistiques se sont tournées autour du jardin, et les plasticiens se sont intéressés à l'écologie en ville. Du coup, il y a eu un petit peu de permaculture, il y avait une ruche, il y avait des éco-constructions, on a très tôt fait du compostage, on avait un toilette, on avait condamné tous les toilettes de la maison, et on avait un toilette au fond du jardin, une toilette sèche à l'époque. Et donc du coup finalement ça a drainé aussi un petit mouvement d'associations militantes écologiques autour des activités à la base plutôt artistiques. Et puis ben l'association, enfin le collectif a grossi, l'association joue et pâtit de la pression foncière parisienne et se cale dans ce qu'on appelle les interstices, des périodes intercalaires, des grands projets urbains de la ville de Paris. Donc du coup, ben de ce premier lieu dans le 18e, après un an de procédure. on a eu une convention. Voilà, depuis le collectif est conventionné par, enfin a été conventionné par la ville, et au bout de 5 ans d'activité dans le 18e, on nous a dit bon bah voilà, maintenant le projet va démarrer, faut partir ailleurs, et donc on est allé sur le site de la caserne de Reuilly. Et donc maintenant on est à Montreuil depuis 3 mois. Cette histoire elle est assez importante parce qu'en fait du coup on est complètement mutant et on est à la fois ancré dans le territoire et nomade. Du coup ça crée une dynamique assez riche, très aussi dans enfin ancré dans le présent, puisque du coup on est sans cesse obligé de se renouveler, de réfléchir le projet, l'espace, de se réadapter à notre environnement, de recréer un public, de réexpliquer notre projet, et donc de l'évaluer aussi dans le temps et par rapport à l'évolution aussi des politiques de la ville. Sachant que je parle là de convention, etc., on est un collectif qui est non subventionné, autofinancé, autogéré, avec un bureau collégial, je suis coprésidente, on est quatre. On prend nos décisions en consensus, on a des réunions tous les lundis soirs, qui fait que du coup il y a quand même, enfin c'est pour ça que c'est vraiment un lieu de, je commençais par cette idée de l'expérimentation collective, c'est qu'en fait voilà on est tous bénévoles, en fait on travaille tous à l'extérieur de, voilà, comme par exemple Vincent qui vient faire des ateliers à la Maison Pop. Moi j'ai fait des ateliers en ressourcerie autour des problématiques de recyclage aussi, ou d'autres, enfin voilà, chacun, il y a des intermittents, il y a plein de profils de vie différents, d'ailleurs il n'y a pas que des artistes, c'est aussi un truc qui est important pour nous, on n'est pas un collectif d'artistes, quoi, il y a des membres du collectif qui sont des membres permanents, qui n'ont pas une pratique artistique, mais qui simplement juste s'interrogent sur ces nouveaux modes de vie et de travail. Voilà, après, je sais pas, peut-être que vous avez des questions, c'est très vaste.
Comment est-ce que vous expliquez le succès de le Jardin d'Alice, pour paraphraser les nuls?
Alors, le succès, je sais pas, c'est vrai que je suis hyper intimidée par cet accueil vous me faites.
C'est totalement vrai, puisque ça fait 3 mois que vous êtes installé. Maintenant, on peut le dire, pendant la COP21, vous avez reçu des centaines.
Ouais, 500 personnes tous les jours.
500 personnes très tous intense, les jours. Pour y être allé, j'ai assisté à des grandes bouffes énormes avec des gens qui dormaient dans tous les... Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Alors que le site, on le voit, bon, bah voilà, voilà. Comment vous faites, en fait?
En fait, je pense que c'est pas lié à... Enfin, il n'y a pas une histoire de succès, c'est que, en fait, des lieux ouverts dans Paris, on n'a pas beaucoup. Là, c'est très grand. Enfin, je veux dire, des lieux ouverts où on peut effectivement dormir, manger pour pas cher. L'adhésion, elle est à prix libre. La nourriture est servie à prix libre. On est très vigilant à ce qu'on sert. Donc, on sert à manger bio, local, enfin, le plus local possible, de saison. La bière est artisanale. Voilà, les jus de pommes viennent d'un collectif qui produit dans le Perche. Enfin, bon, bref, on a cette vigilance-là. Et en fait, je pense que du coup, c'est un peu, on ouvre notre maison, quoi. Donc, du coup, en fait, les gens s'y sentent bien. Je pense que le succès vient pas réellement. Enfin, j'espère qu'on accueille bien les gens et que ouais, qu'on est cool. mais je crois que c'est surtout un besoin, en fait, dans la ville.
Alors justement,
et qu'on répond, ouais, à un réel besoin. Voilà.
Ouais, dans la ville, c'est intéressant, justement. Alors, avant de passer, ça se trouve, on va effleurer le sujet, mais c'est une passerelle, en tout cas. Hein. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui et qu'on est très heureux de vous recevoir entre la maison populaire et la ville. Juste le truc, qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans ce que vous faites?
Moi, à titre personnel?
Ouais.
C'est hyper dur comme question. Qu'est-ce qui m'a le plus motivée? Le projet du vivre ensemble, en fait, d'expérimenter. En fait, je le dis souvent, au Jardin d'Alice, tout est possible. Dans le respect des gens, du quartier, etc. En fait, n'importe qui peut venir avec un projet. Globalement, c'est possible. On n'est pas des critiques d'art. On n'est pas... voilà, nos portes sont ouvertes et si les gens qui sont porteurs de projets sont dans la même éthique, le même engagement éthique, politique, écologique que nous, en fait, ils sont les bienvenus. Et ça, c'est stimulant parce qu'en fait, du coup, on fait plein de rencontres diverses et variées. Et c'est passionnant, en fait. C'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes personnes.
Avant de passer à la question pour Vincent Roudot, qui fait partie du hackerspace, donc Black Box, l'anti, qu'est-ce qui vous a le plus déçu ?
Alors, c'est à double tranchant, puis du coup, en fait, de toute façon, je voulais le dire, donc la question, je vais la prendre dans ce sens-là pour que je puisse faire mon petit laïus à ce niveau-là. La lutte constante pour se faire une place dans le paysage urbain. On est à la fois très heureux d'avoir été accueillis à Montreuil. Notre bailleur aujourd'hui est l'établissement public foncier d'Île-de-France. Ce n'est absolument pas lié à un soutien politique de la ville de Paris, chez qui on a été conventionné pendant 7 ans. Quand on a dû rendre les clés de la caserne d'Aurillac, qui était un site pilote politique de la ville, je dis pilote entre guillemets parce que du coup, on nous a dit très clairement, attention, vous avez une grosse responsabilité sur les épaules, c'est un projet qu'on n'a jamais fait, mettre le cirque romanès, deux collectifs d'artistes, donc qui étaient la Garexpo, le Jardin d'Alice, un Emmaüs, et des grosses associations hyper subventionnées, qui étaient notamment Technopole, Hip Hop Citoyen, dans le même truc, et puis de voir ce qui se passe, vous avez intérêt à ce que la sauce prenne, et ça c'est votre responsabilité. En 18 mois, on a juste à peine le temps de se regarder un petit peu, de voir comment les uns et les autres fonctionnent, pour se dire après faisons des trucs ensemble. Et donc du coup, ce qui vraiment moi me choque, c'est qu'à la fois, d'abord, il n'y a pas du tout de logique de politique culturelle à long terme sur les alternatives, c'est vraiment, on bouche les trous. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a énormément de bâtiments qui sont vides, publics, privés. Alors la ville conventionne depuis quelques années de l'année, enfin la première convention d'occupation précaire a été établie au 59 Rivoli, après que nos pères, entre guillemets, se soient... longuement battues, mais ces conventions aussi, elles interpellent parce qu'en fait, elles restent, elles permettent de développer des projets, mais en fait, elles permettent pas de développer une politique de la ville qui a du sens, en fait, qui a du sens pour le citoyen. C'est-à-dire que nous, elle va répondre à un besoin urgent pour nous d'espace de création, d'espace d'expérimentation, mais pour moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu un petit avortement. En cours, quoi. C'est-à-dire que on a le temps de s'installer, que les voisins prennent leurs marques, etc. Et puis on s'en va. Et puis on s'en va. Et puis en plus on remplace par. Alors évidemment, on est souvent sur des intercalaires pour du logement social. Donc il faut faire du logement. On manque de logement cruellement à Paris. Mais bon, une ville, il faut tout. Il faut des centres commerciaux, il faut des banques, mais aussi il faut des lieux de culture. À bas prix, accessible à tous, etc. Et si on fait, si on laisse Paris aux riches et que du coup toutes les alternatives on les met en périphérie de Paris, parce que c'est un petit peu le cas. Voilà, nous, comme je disais, on est très content d'être arrivé à Montreuil, on est hyper bien tombé d'être sur Montreuil, mais encore une fois, on nous a mis dehors. Et au moment du relogement dans le 12e, on avait 1000 mètres carrés, donc quand même à la caserne de Rieux, on nous en a proposé en nous disant on soutient à fond le Jardin d'Alice, c'est génial ce que vous faites, etc. On nous a proposé 100 mètres carrés au fin fond du bois de Vincennes. Là, quand après 7 ans de travail ensemble avec des politiques qui vous disent on connaît parfaitement votre projet, 100 mètres carrés au fin fond du bois de Vincennes, on dit mais en fait vous n'avez rien compris. C'est pas parce qu'on s'appelle le Jardin d'Alice qu'on fait pousser des patates. Et si en plus on a envie de faire pousser des patates, on a envie de le faire pousser justement dans le paysage urbain. Sinon on part et puis on fait comme énormément de collectifs et on part plutôt développer des activités en milieu rural. Du coup voilà, faut se battre pour que, faut ouvrir des lieux et faut se battre pour que les alternatives restent dans la ville.
Et là, vous pensez rester longtemps à Montreuil ? Ça se passe bien ou...
Non, la lutte continue toujours. On a seulement 2 ans de convention, donc on va travailler dès le plus tôt possible. On sort effectivement la tête de l'eau de la COP de l'Anticop, puisque c'était très important pour nous de pallier au manque crucial de logistique de la politique de la ville, quoi, juste de dire où est-ce qu'on va mettre tous ces militants, comment on les accueille, etc. Nous, il faut savoir qu'on a été sollicités, mais en plus, même par des grosses ONG, des partis politiques de province qui venaient, etc., et qui nous disaient « on ne sait pas où mettre nos militants, est-ce que vous avez de la place ?» Je lui dis « mais c'est pas possible, enfin, c'est quand même, on parle quand même de la COP21, qui est annoncée dans un calendrier depuis plusieurs années, les gens, en fait, vous vous organisez pas, et vous vous tournez encore une fois vers les alternatives pour qu'on trouve des solutions où... Voilà. Et qu'en plus, on se met en danger, puisque du coup, il est vrai que nous, on venait d'arriver à Montreuil, que les voisins, quand il y a des projets comme ça, un petit peu, qu'ils connaissent pas, ils ont un petit peu peur. Donc, il y en a qui sont très contents, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et que, bah, du coup, pour nous, c'était un vrai choix, c'était un vrai choix politique, mais aussi ça a mis un petit peu notre projet en danger, puisque aujourd'hui on a des voisins qui se sont plaints parce que voilà, pendant toute la période de COP, c'était un peu le bordel devant la porte. On fermait à 22h, hein, je tiens quand même à dire qu'on essaye de faire attention de garder des horaires qui sont raisonnables, etc. Mais bon, du coup, voilà, ça faisait beaucoup de monde, et puis quand on n'est pas connu, tout de suite on dit mais c'est quoi ce truc qui débarque voilà, il y a du monde tout le temps, il faut à manger, enfin voilà. Donc du coup, bah, maintenant, on a tout un travail politique à faire pour justement essayer de pérenniser, de se pérenniser un petit peu. On aimerait bien, si on peut rester sur Montreuil, c'est chouette, réintégrer Paris, je pense que ce serait bien pour Paris. Nous on est bien là aussi. Mais par contre, ben du coup, c'est encore du temps de dossier, sachant qu'en fait, comme on est tous, comme je le disais tout à l'heure, bénévoles, en fait, c'est du temps qu'on ne met pas non plus à développer nos pratiques. Donc du coup, c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, je m'occupe beaucoup de cette partie-là, et tout ça. Et en fait, ça fait 4 ans que j'ai intégré le Jardin d'Alice, en me disant, bon, je vais me remettre à produire des trucs pour moi. Et en fait, je me suis tapé 2 relogements là. Donc du coup, je cherche des nouveaux lieux, je vais taper à toutes les portes, et puis du coup, ma pratique, je la mets un peu de côté, quoi.
Bah, merci beaucoup et bon courage, ça va marcher.
Merci à vous de nous avoir invités. Et... Ah
bon, en attendant de retrouver Kerry Gamon de Toulouse, merci en tout cas à Le Jardin d'Alice. En attendant de retrouver Vincent Roudot, nous vous proposons d'écouter en live direct le duo ADC 303 et le Flash qui se mettent aux machines et qui nous préparent un petit titre pour nous mettre en bouche un petit peu ce qu'ils vont nous jouer le 13 février à l'occasion des 50 ans de la Maison Populaire. On vous invite nombreux et nombreux à venir participer à ce grand, grand bal populaire qui se tiendra à la mairie de Montreuil. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Ils sont là tous les deux en résidence depuis 2 mois. Allons-y. commence aujourd'hui pendant 3 heures. Ils étaient là du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, on terminera avec eux aujourd'hui ce Fablabla ADC 303 et le Flash qui seront en live le 13 février à l'occasion des 50 ans de la Maison Populaire à la mairie de Montreuil. On vous attend nombreuses et nombreuses pour le Pop Orchestre. Ils seront là avec des sculptures et des DJ aussi en live. Merci ADC 303 et le Flash. Et en plus, ils se payent le luxe de jouer dans le club de David Lynch dans 3 jours ou 4 jours, le Silencio. C'est le 18, vous pouvez les retrouver au Silencio. Ah oui, ça c'est une bonne date. Mais avant tout, à la Maison Populaire, c'est la découverte de cette année 2016 du Pop Lab. ADC 303 et le Flash qui sont en résidence. Youpi, toute l'équipe s'est barrée, j'ai plus de réalisatrice, j'ai plus de facilitatrice. Alors je prends le micro et du coup on va retrouver Kerry Gamon en direct du Fab Lab de Toulouse qui est là avec nous, que vous ne voyez pas sur l'écran mais que moi je vois très très bien. Attention, vous êtes prêts? Ouais, Kerry, yes. Bonjour Kerry.
Salut.
Ouais.
Vous m'entendez?
Est-ce qu'on t'entend? On entend?
Que vous m'entendez?
Ouais, vous l'entendez bien? Welcome Kerry, vous la connaissez, elle est passée par le Pop Lab de la Maison Populaire il y a à peu près 3-4 semaines. Elle était ex-fab manageuse de Mosinor, donc le mythique Mosinor avec le Philippe Schisser qui nous manque tant aujourd'hui, qui est partenaire aussi de la Maison Populaire. Elle a participé au paramétrage de ces imprimantes 3D que vous voyez là actuellement en place, les Ultimaker 2. Et on a beaucoup bavardé sur la possibilité d'un atelier avec Kerry. Et puis elle est partie dans le sud et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Kerry Gamon, vous êtes l'une des rares nanas sur le plateau aujourd'hui. On a bien vu que c'était un milieu très masculin. Il y a Chloé qui vient de nous rejoindre. Vous avez seulement 23 ans, vous êtes Fab Manageuse de Artilec Toulouse. Pouvez-vous nous parler de votre formation et de vos projets en cours?
Alors, concernant la formation, je fais en fait des études en art appliqué. Est-ce que vous m'entendez bien?
Il y a du monde derrière, on vous entend à peu près, mais c'est vraiment très assuré. On va se concentrer sur ce que vous nous dites alors.
Ok, donc une formation en design de produits. Donc, je suis passée par un BTS en design de produits. Et ensuite, j'ai fait un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, donc c'est un master, voilà, design produit, donc des études qui sont de conception, de réalisation, production en fait. Et j'ai fait mon projet de diplôme sur les Fab Labs et sur la production en Fab Lab et le rôle du designer dans un Fab Lab.
Prenez votre micro, je le vois là, il pend à votre oreille, rapprochez-le de votre bouche pour voir, est-ce que c'est ça?
Est-ce que ça fonctionne mieux?
C'est mieux, donc vous disiez que vous aviez fait des études.
Oui, en design de produits, art appliqué, donc des études en fait en conception, production, fabrication, voilà.
Et vous vous retrouvez, donc on voit, c'est quoi, derrière c'est immense, enfin, c'est quoi ce Fab Lab de Toulouse là, c'est...
Artilec, donc bienvenue au Fab Lab de Toulouse, donc là on a les machines, la découpe laser, et en fait j'ai fait mon projet de diplôme dans ce Fab Lab, j'ai aidé à l'organisation du Fab Lab Festival l'an dernier, qui a eu lieu en mai, voilà. Et donc qui aura lieu cette année encore,
mais surtout. Avis aux amateurs, avis, voilà, 23 ans, Fab Manageuse du Fab Lab de Toulouse. On vous encourage vivement en tout cas et on espère vous retrouver très rapidement au Pop Lab aussi. Juste le petit truc très rapide puisqu'on a une très mauvaise connexion, le fameux jeu du qu'est-ce qui. Donc qu'est-ce qui vous a le plus motivé, qu'est-ce qui vous a le plus surprise et qu'est-ce qui vous a le plus déçu?
Alors ce qui m'a le plus motivé, c'est l'interaction entre les gens, donc vraiment toutes ces compétences que l'on acquiert grâce aux autres et que l'on peut transmettre. Il faut se rappeler que le savoir-faire n'est rien sans le faire savoir. Voilà. Allô ?
Ouais, ça coupe un petit peu. Un petit peu. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour la performance et puis aussi pour vous voir, parce qu'on est ravis de vous voir à la Maison Populaire. Et puis tous les intervenants et les personnes qui sont invitées sont ravis aussi de voir qu'il y a une personne qui est une femme et qui a 23 ans et qui est femme manageuse, en tout cas Artilec, et on vous reverra bientôt au Pop Lab. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. À très vite, Kerry. Merci d'avoir pris un petit peu de temps. Artilec, on en reparlera à la Maison Populaire. Il va y avoir le festival qui va avoir lieu bientôt en mai. Gros bisous, à bientôt. Merci.
Salut.
Alors, la fameuse question.
Vincent Roudot, nous avons une question d'un internaute inconnu qui s'appelle Anonymous.
Est-ce que TRFD vous tient vraiment à cœur? Est-ce que TRFD vous tient vraiment à cœur?
C'est incompréhensible.
Est-ce que pirater vous tient vraiment à cœur? À cœur.
À cœur.
À cœur.
Pirater.
Pirater à cœur.
Pirater. Très bien, je crois avoir la...
Je pense qu'on a deux notions qu'on peut expliquer.
La baie vers laquelle nous nous dirigeons. Alors, dans le monde à cœur, il y a une question de chapeau. Il y a la couleur du chapeau notamment. Le chapeau blanc, c'est les gentils à cœur. Qui font pas trop de bêtises et qui bricolent gentiment, qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Et puis il y a les chapeaux noirs qui font plein de bêtises, qui en ont rien à foutre et qui cassent tout. Et enfin voilà, dans les grandes lignes, c'est ça.
Après, finalement, c'est très manichéen.
Non, il y a toutes les phases intermédiaires. Il y a les gris, il y a les bleus, les rouges, les verts. Voilà quoi, tout le monde s'amuse à avoir une couleur de chapeau quoi. Il y a tout le gradient entre les deux. Hein, là, j'ai, voilà.
Et est-ce qu'on peut être les deux à la fois?
Gris.
Gris.
Oui. Souvent les gens peuvent être un peu les deux. Mais il y a quand même une grande tendance, c'est-à-dire qu'on peut dire. Ouais, le hacker, le black hat, ça, on va dire que c'est le gars qui bosse pour la mafia, qui va casser des comptes, qui va casser des comptes bancaires pour détourner de l'argent et en reverser. On peut dire que ceux qui font des virus, par exemple, pour asservir des centaines de mille de PC, pour renvoyer du spam et compagnie. Ça peut être considéré comme black hat. Voilà. En général, on ne sait jamais en fait. Dans ce milieu-là, on peut jamais vraiment savoir. Là, je parle un peu de sécurité, mais dans le hacker est beaucoup plus large que la sécurité. Et voilà, ça couvre d'autres horizons.
Est-ce que quand on est hacker, donc pirate? On peut aussi bien pirater le logiciel d'un aspirateur de maison. Et est-ce que quand on sait faire ça, on peut pirater aussi des ordinateurs de personnes, de gens
Bah oui.
Voilà. Donc du coup, super comme réponse.
Non, c'est pas parce qu'on peut qu'on le fait. C'est ça le truc. Hein.
Alors est-ce que par exemple, à Black Box, on sait... rentrer dans un compte, mais on ne le fait pas.
Oui, cette limite.
Et à quoi ça sert?
On devient rapidement un pirate parce que en fait sur toutes les c'est un petit peu le pourquoi du black box à l'origine qui s'appelle plus black box maintenant d'ailleurs, mais sur la plupart des machines en fait il y a marqué garantie nulle si ouvert. Donc il y a des espèces de warning. Chose interdite, par exemple, on n'a pas le droit d'ouvrir sa Freebox. Ouvrir sa Freebox, c'est considéré comme une atteinte grave au, au,
voilà quoi, à la loi quoi. Donc justement nous on milite pour ne pas se faire imposer des trucs stupides comme ça, mais à ouvrir toutes les boîtes. Et dans ce sens-là, on peut être considéré comme des pirates. Mais...
Est-ce que c'est principalement du code? On pirate comment, en fait? Avec un langage avec...
En l'occurrence, là, ça a commencé par un tournevis. Mais pour une Freebox, ou n'importe quelle box. Ça commence par un tournevis, ça commence par du physique, et puis ça conduit de plus en plus vers du code et des trucs plus subtils. Ça analyse les signaux, après ça finit par finir d'ouvrir la boîte, voir le code. Donc évidemment.
C'est quoi les signaux?
Les signaux, c'est les signaux électriques. Les signaux électriques qui passent sur deux fils. On finit par enregistrer ce qui passe dessus. Là je décris une opération qui s'appelle du reverse engineering. Reverse engineering, c'est de l'ingénierie inversée. C'est-à-dire que comme on se fait imposer des petites boîtes dans la vie quotidienne, dans notre panoplie technologique, et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et qu'on ne sait pas qui a l'autre bout du fil et compagnie, nous ça nous énerve très fort. Ou plutôt c'est par habitude, on ouvre la boîte, on regarde ce qu'il y a dedans, on regarde comment c'est fait. Et du coup, il y a cette descente du niveau physique à un niveau plus réseau, et puis à analyser ce qui passe sur les fils, donc ça c'est les signaux, et après comprendre avec la connaissance qu'on a des protocoles et compagnie, de ce qui se dit en fait, du dialogue qu'il y a entre une boîte qui est chez nous et son constructeur, qui y a un dialogue qu'on ne connaît pas. Et que nous on essaie de décrypter pour dire tiens c'est bizarre, la dernière version d'Apple communique tout ce qui est tapé dans le champ recherche du Mac par exemple, pas très sympa.
Mais bon. Est-ce que quelqu'un qui par exemple a craqué Windows depuis 20 ans, donc qui a commencé en Windows 95, qu'on est à Windows 10 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a utilisé tous les cracks de la suite Adobe One Kenobi depuis 20 ans et qu'il n'a jamais payé est un hacker?
C'est un... Peut pas... Non, ça c'est pas hacké, c'est piraté dans le plus bas sens du terme, quoi. D'accord. Comme dans... Un tout petit peu plus haut, c'est utiliser des outils qui ont été faits par d'autres pour aller hacker, par exemple, injecter un virus ou aller machin. Ça s'appelle par exemple des scripts qui disent. Ils sont simplement utilisateurs. Donc ça en met plein les yeux parce que waouh, comment t'as fait? Mais ils ont juste appuyé sur un bouton. Donc voilà, il y a tout un échelonnage en fait.
Il y a nos comptes avant de repasser la parole à Vincent. Qu'est-ce que vous pensez de ces hackers qui d'ailleurs ça ressemble étrangement aux quarantaines que Mathieu a évoqué tout à l'heure.
La question du hack, c'est un problème complexe et du piratage un problème complexe. C'est, encore une fois, c'est une question de droit et de propriété lucrative et de propriété d'usage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un peu effrayant les termes, mais en gros, voilà, si j'utilise un outil, j'ai pas besoin d'en être propriétaire pour retirer une rémunération. Et là, en l'occurrence, on nous impose l'usage d'une technique de ne pas pouvoir l'utiliser, justement, et d'être bloqué par un tas de lois. Et après, la question du hack, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu Marchal tout à l'heure, c'est aussi une question de se réapproprier des outils qui sont fermés, et trouver un moyen de pouvoir savoir comment ça fonctionne et de mieux participer à la production et à la création des œuvres des êtres humains, quoi, on va dire, entre guillemets, pour aller un peu vite, pour parler très largement. Voilà.
Du coup, avec Vincent, toujours sur ce système, je sais que c'est la grosse baston. Que deviendrait le monde si on n'avait que des logiciels libres? Comment on fait là? C'est quoi? Donc il n'y a plus de Photoshop?
Attends, déjà justement, robot de Photoshop, il y a quand même une sacrée entourloupe. C'est-à-dire que ces boîtes-là s'arrangent pour que leur logiciel soit piratable. Je pense que c'est même eux qui diffusent des copies craquées, de manière à ce que les gens s'habituent à utiliser Photoshop et compagnie. Et après, quand on arrive dans une boîte, moi je connais Photoshop. Donc quelque part, il y a un... et c'est la boîte qui va payer. C'est voilà, c'est Maison Pop, c'est les entreprises qui sont sommées de payer. Mais le particulier, il s'en fout. Personne n'a jamais été arrêté pour avoir utilisé Photoshop chez lui, quoi. Donc c'est sournois en fait. C'est permettre l'utilisation et le conditionnement d'utiliser que ça. Bah après, quand on veut utiliser autre chose, bah c'est différent, c'est bizarre, ça marche pas pareil.
Donc oui, parce qu'on dit souvent que les logiciels libres sont un peu en dessous des fonctions. Par exemple, on va citer GIMP, on en avait parlé la dernière fois. Quand on passe de Photoshop à GIMP, on a l'impression de jouer sur un porte-clés en fait avec GIMP, on ne comprend rien.
Ouais, voilà. Mais moi j'étais.
Précision, GIMP c'est un logiciel de photo.
Oui.
Parler aux profanes. Aussi.
Voilà, le c'est le Photoshop libre, mais on ne devrait pas dire. Dans ce sens-là, c'est un logiciel libre de dessin qui n'est pas Photoshop, mais qui fait à peu près les mêmes choses. Bah, je sais pas, moi j'ai vu des jeunes, je me rappelle, je me baladais dans le métro, je voyais il devait avoir 14-15 ans, il avait un manuel de GIMP dans les mains. Un manuel de GIMP dans les mains, ouais, c'était à Saint-Denis quand on était dans un squat à Saint-Denis. Dans les éditions précédentes du Hackerspace, là, bah voilà, je pense que si c'est appris dès le départ, en fait, c'est pas choquant, c'est normal, ça va être moins clinquant, effectivement, qu'un Photoshop où il y a des armées de développeurs, évidemment, mais il y a des logiciels qui n'ont pas du tout à rougir, je pense à Blender par exemple, qui est vraiment au top, quoi. Qui est libre, c'est particulier Blender, le code source du logiciel propriétaire de l'époque a été racheté par la communauté d'utilisateurs pour je sais plus combien, 100 000 $. Ils ont réuni la somme et ils ont libéré le code et ils ont continué à le développer. Donc c'est un double modèle. Mais ben, en fait, voilà, il y a un peu tout à faire dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de marketing dans le libre. Et donc évidemment, il faut vachement se tenir au courant et d'où l'intérêt de fréquenter des communautés et des rassemblements d'utilisateurs de libre. Il y en a un à la Villette, voilà, nous on a une édition chez nous. Enfin voilà, il y a pas mal d'endroits où ça quand même. Ça se...
La transition est parfaite, Vincent. En fait, on est tenu un petit peu par le temps.
Donc qu'est-ce qui se ferait si le monde était
voilà,
que
ça,
de logiciels ouais. libres ouais. Eh ben, ça serait vachement bien. Parce que utiliser un logiciel libre, c'est déjà contribuer à son développement, ouais. Pas uniquement à la boîte mère dans la version propriétaire. Et du coup, il y a un effort contributif qui, à mon avis, il y a une masse critique qui est en train d'arriver maintenant là. Et dès que ça sera un peu dépassé, il y aura plus que du libre. Déjà, on le voit dans les voilà Android, ouais. c'est du ouais. Linux. Enfin, déjà le libre a déjà gagné d'une certaine manière, mais il y a cette masse critique d'utilisateurs qui est
entreprise finalement.
Ouais. Entreprise. Il y a une tradition du Windows par exemple pour l'industriel, électronique et compagnie. Il y a pas de Linux là-dedans quoi.
On en reparlera de Linux la prochaine fois s'il y a une seconde émission. En tout cas, merci beaucoup Vincent. On vous retrouve à la Maison Populaire, au Pop Lab tous les mercredis, tous les jeudis et souvent. Et on vous retrouve à Le Jardin d'Alice, comme diraient les nuls, au 139 rue Garibaldi. On est très 19, c'est vrai qu'il y avait 19 rue Garibaldi, voilà, à Le Jardin d'Alice. En tout cas, merci d'être passé. Petite question en direct, sans transition, puisque de toute façon, on n'a plus de réalisatrice. Merci Mostafa Hadji, à très très vite. Au bientôt à la Maison Populaire. Donc, petite question à Chloé Lembo, qui vient de nous rejoindre, qui fait aussi partie de l'atelier Bidouille et Robotique à la Maison Populaire. Je crois que Juliette a une petite question avant qu'on se quitte. Bah, c'est pas grave, c'est moi qui vais la poser. Bonjour, vous avez le micro de Vincent ?
Oui, bonjour.
Oui, on vous entend. Bonjour, Chloé.
Attendez, je m'entraîne en disant bonjour.
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 Bon, je suis prête.
Bonjour, Chloé. Merci de nous rejoindre. On n'a pas beaucoup eu de présence féminine et on a eu encore moins de designeuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le métier de designeuse ?
Alors, le métier de designeuse, c'est celui que je ne pratique pas. En fait,